Gatha on opening the sutra, the Dharma incomparably profound and infinitely subtle is rarely encountered even in millions of ages. Now we see it, hear it, receive and maintain it. May we completely realize the Tathagata's true meaning.
Nous avons quelques réglages techniques. Merci. Alors, c'est revenir ici. Et faire cette retraite est très particulier. D'abord parce que, comme j'ai dit hier, ça fait 3 ans qu'on n'a pas été. Joe et moi, nous avons passé une semaine ici avant la transmission, au mois de juin. L'année dernière, donc il y a presque un an. C'est un lieu qui est très, très propice à la pratique. Et je ne sais pas si c'est la nature même de la maison ou c'est ce que nous on apporte, ce que nous on amène ici. Notre esprit, notre présence, notre désir. Et j'ai beaucoup de gratitude pour Delphine et Joa qui ont fait ce lieu enfin, c'est leur maison de campagne, mais ils ont quand même fait tous les travaux ici pour que ce soit un lieu de pratique et pour loger le maximum de personnes. Et c'est la preuve d'un dévouement envers le dharma et la pratique. Et d'une générosité pour nous accueillir. Ils accueillent bien leurs amis aussi, mais ce n'est pas notre cas. Nous sommes dans une autre relation et c'est très généreux. Et ça me ramène à bon, on avait fait une retraite en présentiel au mois d'août, justement pour la transmission du joie. Mais c'était autre chose. Il y avait beaucoup de monde. Et quand on dit beaucoup de monde, ça change la façon de pratiquer ensemble, la façon qu'on fait les choses. On est obligé d'organiser autrement. Et la relation qu'on avait avec les autres, c'est différent, forcément. Et puis il y avait une retraite en présentiel au Portugal auquel j'ai pas pu assister parce que j'étais malade, mais Joa y était. Et ça, il y avait un autre esprit, certainement, j'étais pas là. C'était pas comme ici, dans le sens que c'est pas le même lieu. C'est un centre catholique laïque. On fait les retraites depuis plus de 10 ans dans ce lieu, au Portugal. Donc on le connaît bien, on connaît les femmes qui le gèrent. Mais ce n'est pas comme si être chez quelqu'un, comme ça. Et ça, le fait d'être chez quelqu'un, comme ça, en fait, on est toujours chez quelqu'un. Même dans le Morvan, on était chez quelqu'un. C'était une autre façon d'être chez quelqu'un. Et d'ailleurs, à Coimbra, les deux dames qui gèrent le centre vivent là, sur place. Donc, c'est chez elles aussi. Mais ça me ramène à ce qui est notre pratique particulière à Wildflower. C'est pas qu'on est propriétaire de cette pratique, mais notre façon de pratiquer, ce qui caractérise notre sangha, c'est que on arrive quelque part, quand on se réunit, que ce soit s'asseoir en semaine, que ce soit une retraite, week-end, semaine, etc. Et on fait avec ce qui est. Souvent, c'est chez quelqu'un. Pour certains parmi vous, vous avez à Paris, on a toujours été chez Joël Delphine une fois par semaine. Une autre fois par semaine, on était dans différents lieux. Et nos retraites de week-end ou de journée, on le faisait dans mon salon, dans le salon de Joël Delphine, dans un bureau. Le beau-frère de quelqu'un, son bureau. Où est-ce qu'on avait fait l'autre? Ben, on avait fait Red Earth dans le centre de yoga. Et dans notre centre. Puis, oui, puis on avait fait notre expérience, une tentative de faire autrement. On a créé un centre. Et c'était une très belle expérience, mais en fait, ça ne correspondait pas vraiment. Moi, ça ne correspondait pas, dans le sens que je ne voulais pas donner mon énergie à créer un centre et faire vivre un centre. Moi, ma vie est dédiée à faire vivre cette pratique dans la vie des gens. Et ce n'était pas de cette façon-là que je voulais le faire. Mais c'était une très belle expérience pour nous tous, pour tous qui ont participé à cette aventure. Mais ce qui se passe en revenant ici, je crois que c'est parce qu'il y a des distances de 3 ans. Ça me révèle l'essence, en fait, l'essentiel. Ce que c'est cette pratique et ce qui est la voie, ce qui est le nôtre, notre chemin. Et on pouvait dire c'est très, on dit en français, casual,
banal, normal,
nonchalant,
banal.
je sais pas, mais
Informel.
oui, bien que ce n'est pas, on est formellement là pour ça et on établit certaines formes et on les respecte. On n'est pas habillé dans les robes. Puisque c'est un petit nombre, on n'a pas besoin de fonctionner avec tout un tas de formes ou règles additionnelles parce que c'est petit. Donc ça aide. Et ça donne cet aspect peut-être informel. Bien que ce n'est pas vraiment. La discipline de être ici maintenant n'est pas épargnée. L'intention de ce que c'est cette pratique n'est pas, souvent occulté, on peut dire le mot occulté, c'est pas par cet apparent aspect informel. Et donc, je me disais, parce que je le sens, je le vis, c'est pas que je me convaincre de ça ou que j'ai cette idée, mais c'est mon expérience. Et donc, je regarde dans mon assise, depuis qu'on est arrivé, je regarde. Alors, de quoi il s'agit alors? Quelle est cette pratique qu'on fait? Quelle est notre intention que moi je vis comme intacte? Quelle est cette pratique qui apparemment est informelle mais n'est pas? Donc, il s'agit de quoi? Et je pensais un peu à ce que David Loy avait dit l'autre soir à Dana. Il a dit, je me souviens plus, mais il était question de l'univers, que le sangha était l'univers ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous souvenez? Non, je ne sais pas. Je sais pas, mais il y avait quelque chose avec l'univers. Et pour moi, hein, l'univers, c'est toujours la voie dont on parle, le chemin dont on parle. C'est l'univers, c'est ça. Et comme sur notre site et notre texte fondateur de White Flower, c'est que l'univers, c'est notre zendo. Et chacun, enfin, c'est la même voie depuis. Tout le monde marche sur la même voie, disons. Le Bouddha, les ancêtres, tous les grands noms qu'on cite, ont marché sur cette même voie, qui est cet univers, l'univers. Mais ce qui est magnifique, et ce que je trouve est manifeste dans la façon dont on pratique, c'est que chacun marche sur la même voie, mais la démarche de chacun est unique, singulière, la démarche de chacun. Quand on fait Kinin, tu regardes la personne devant toi, il ne marche pas comme toi. Mais on est sur le même chemin. Quand on fait Kinin ici, pareil. Quand on s'assoit, c'est le même chemin, c'est la même voie, mais la démarche de chacun est différente. Et de même, la voie, bien qu'on dise c'est l'univers, se manifeste différemment aussi. Ça dépend où on est. La voie ici, si on regarde les arbres, c'est pas les mêmes que dans mon jardin, ou c'est pas les mêmes que au jardin de Luxembourg, ou c'est pas les mêmes dans la ferme où Adrien travaille dans la Drôme. C'est pas la même végétation. Ça ne manifeste pas de la même façon, mais c'est la même voie. Et chacun, chaque être vivant a sa démarche manifeste, qui se manifeste différemment sur ce chemin. Et on n'a pas besoin d'aller quelque part pour trouver le chemin, parce que le chemin est déjà là. En fait, tu es le chemin. Le chemin n'est pas autre chose que ta vie. Et ta vie, évidemment, manifeste différemment que différentes caractéristiques de ma vie ou la vie de ton frère ou tes collègues. Oui, cette histoire d'expression aussi, c'est quand je dis manifeste, ça manifeste différemment, ça s'exprime différemment. Chacun a ses expressions. Cette voix s'exprime aussi bien par les cerises que par les orties, aussi bien par toi que moi, aussi bien par un chien que par un ours. Enfin, c'est illimité les manifestations et les expressions de ça. Et chacun, bien qu'on exprime la même chose, on l'exprime à sa façon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on exprime? Qu'est-ce que c'est qu'on manifeste? Dès qu'on se penche dessus et on essaie de donner une définition, ce n'est pas ça. On exprime notre nature, on exprime la nature de toute chose, la nature de Bouddha, comme on dit souvent dans les jargons. J'essaie de ne pas m'appuyer sur les jargons parce que on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On sait très bien quand que ce soit dans une pièce comme ça, on n'a pas besoin d'être dans un superbe temple à Kyoto ou dans un ashram en Inde. Enfin, comment toi tu t'exprimes? Et la pratique des Corans, c'est ça, hein? C'est comme ceux qui pratiquent des Corans, vous savez que c'est vraiment comment s'exprime cette réalité dans ta vie, ici maintenant. C'est que ça. Il n'y a que toi qui sais ça, qui peux exprimer ça. J'ai trouvé cet exemple très bien dans un livre qui est écrit par un ancien journaliste de l'agence France Presse, qui s'appelle Hervé Clair. Et qui, je ne me souviens pas exactement, ça fait longtemps que j'ai pas relu ce livre, mais le livre s'appelle Les choses comme elles sont. Et cet homme, je crois que c'était pendant les manifestations en 68, a eu une très forte expérience de ce qu'on peut appeler l'absolu, les choses comme elles sont. Et toute sa vie, il a passer à essayer de comprendre ce que c'était ça. Et je me souviens plus exactement, mais bref, plus ou moins il a essayé différentes choses, philosophie, revenir à ses racines chrétiennes, différentes choses. Et finalement, Heidegger, Platon, Socrate, il essayait tout pour trouver à quoi ça correspondait son expérience. Et finalement, il est arrivé au bouddhisme. Et ce livre parle de ça, de son parcours. Mais il donne un exemple de ce dont je parle, où il dit, deux amis boivent une bouteille de Château Margaux. Et ils passent une superbe soirée ensemble, les yeux dans les yeux. Ils sont d'accord sur la robe du vin, la couleur, le tanin, les caractéristiques. Ils sont d'accord là-dessus. Ils apprécient énormément une chose. Le Château Margaux, c'est fabuleux quand même. Et puis le lendemain, quand ils en parlent, enfin, quand il s'exprime là-dessus, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Parlant le lendemain, comme s'il s'agissait de deux vins différents. Parce que chacun a son expérience de ça. Bien qu'ils étaient le même vin, et ils étaient d'accord sur ce vin. Mais le lendemain, même, vous pouvez même peut-être pendant, mais comme ils sont d'accord sur tous les points sur le vin, etc. Mais le lendemain, c'est comme deux vins différents. Parce que c'est deux expériences différentes. C'est des individus singuliers qui vont s'exprimer leur expérience de ce même vin. Et c'est ça dont il s'agit. C'est comme cette pratique, c'est cette voie sur laquelle on est, c'est une dégustation de Château Margaux, en fait. Il y a même un Coran qui est... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu te souviens de ce que c'est? C'est le disciple vient et demande l'enseignement. Je veux l'enseignement, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et le maître dit, où est-ce que tu étais? Et il dit où elle était. Et puis le maître dit, tu as dégusté le vin le plus exquis du monde. Et tu viens toujours demander des... Je ne me souviens pas quoi. Mais c'est vraiment cette vie exquise. Et on le vit, si on le vit pleinement, si on revient à de quoi il s'agit véritablement, si on voit les choses comme elles sont, comme il dit Hervé Clair, souvent on dit les choses telles qu'elles sont. Enfin, moi je dis souvent ça. Mais j'aime bien Hervé Clair qui dit les choses comme elles sont. C'est encore plus naturel, plus basique. On a besoin de rien d'autre. Enfin, ça, c'est du Château Margaux, en fait. On n'a pas besoin d'autre chose. Et revenant ici, me rappelle ça. C'est pas comme j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Et ces années de pandémie, quand on pratiquait chez soi, et on se connectait par Zoom et on se voyait. Ça aussi, c'était du Château Margaux. C'était tellement précieux que chacun s'invitait les autres chez lui. Et on rentrait chez les autres. Et on n'avait pas besoin d'aller quelque part. C'était chez nous déjà. C'était un super enseignement. Et puis maintenant, ça s'exprime autrement, dans un autre lieu, d'une autre façon. Et c'est autre. C'est pas que c'est meilleur ou l'autre est pire. C'est juste, c'est autre. Et passer de l'un à l'autre, personnellement, ça m'amène à apprécier chacun autrement. Si je reste tout le temps dans le même schéma, dans le même lieu, faisant la même chose, je ne l'apprécie pas de la même façon que si je vais ailleurs. Parce que je m'habitue, je m'accroche, je dis que ça c'est meilleur, c'est bien comme ça, c'est facile. Alors, si on revient à cette voie, ce chemin sur lequel on est, c'est même dire sur lequel, sur la voie, c'est même étrange parce que on est la voie, tout est la voie, et donc on n'est pas vraiment sûr. Mais bon, on est obligé d'utiliser les mots qui vont toujours être approximatifs. Donc, Mais ce chemin consiste à voir le monde comme il est. Voir sa vie comme elle est. De même pas dire voir, ça implique une séparation. Et donc, c'est de d'être sa vie pleinement comme elle est, sa vie. Une autre souffrance, c'est qu'on est séparé. L'autre soir, David Loy a parlé aussi de base de l'enseignement du Bouddha, qui était le dukkha, la souffrance. Et que, bon, ça c'était la souffrance, et puis la fin de la souffrance. C'est la base de l'enseignement du Bouddha. Où les gens parlent de notre pratique consiste à transformer la souffrance en éveil ou en bien-être. C'est pas bien-être comme on pense, mais de soulager la souffrance, de mettre la souffrance à la fin à la souffrance. Et comme j'ai dit, les souffrances, c'est notre séparation qui est notre souffrance. Donc, séparation de notre vie, des autres, de nous-mêmes principalement. D'abord, si on est séparé de nous-mêmes. On ne voit pas qui on est, on veut être quelqu'un d'autre. Et ça se traduit dans je suis agressive avec des autres, parce que je suis pas bien avec moi-même et donc je suis fâchée avec des autres. Et là, je parle d'expérience, mon expérience d'avoir fait ça, de le faire toujours, évidemment, bien que maintenant je le vois plus vite que je suis en train de le faire et je ne suis pas autant victime de ça. Et notre pratique s'agit de ça, donc de voir l'unité de toutes choses. Et venant ici, ça nous aide, enfin, ça nous donne les circonstances pour apprécier ça autrement. De ne pas juger des pensées et dire que cette pensée est meilleure que l'autre. Parce que toutes les pensées sont égales en fait. Mais souvent on fait le tri. Cette pensée est bien, cette pensée est mauvaise. Affectivement, si on s'engage sur le trajet des pensées agressives ou dégradant pour nous-mêmes, évidemment, si on s'engage à cultiver ces pensées-là, ben, il y aura les résultats qui correspondent. C'est comme on a parlé l'autre soir, David Loy avec l'écologie. C'est toute notre société est engagée sur ce trajet qui on est séparé de biosphère, de l'univers. Et donc, on ne prend pas en compte les conséquences de ces actions et on est engagé dans un trajet d'accumuler, de toujours plus, qui n'est pas en phase du tout avec les choses comme elles sont. Et évidemment, ça a des conséquences très massives pour nous-mêmes et pour l'environnement autour. On fait partie de cet environnement, donc évidemment, si c'est mauvais pour nous, bah, ça a des effets pour l'environnement. Bien que, comme Adrien, après, je discutais avec Adrien après, mercredi soir, et c'est vrai que notre point de vue sur toute cette crise écologique est très égocentré. On est là en disant l'espèce humaine va disparaître. Et donc il faut faire quelque chose. Mais en fait, ça nous met encore une fois au centre de toute l'histoire. Une blague sur la... J'ai échangé les emails avec David Lloyd parce qu'il va venir en Portugal l'année prochaine. Et il a toujours des blagues à la fin de son email, comme d'autres ont des... Et donc dernièrement, la blague était, c'était en anglais, non, je dis en anglais, Two planets meet. One is blue and green and beautiful, and the other one is brown and gray and kind of dried out. And the first one says, the beautiful blue one says, So, what happened to you? And the brown gray one says, I had Homo sapiens. And the blue one says, Oh, too bad. Don't worry, they don't last long. Et donc, si on se met toujours au centre, si notre point de vue personnel est toujours notre vérité absolue sur l'univers, sur ma relation avec les autres, sur la façon que sur la façon que je veux que ma vie soit ou que les autres soient, etc. On va avoir des problèmes. On va souffrir. Nous-mêmes, on va souffrir et on va engendrer la souffrance pour les autres. C'est comme je disais l'autre soir, si on peut enlever le je de notre pensée, ça change beaucoup de choses. Si le je n'est pas au centre, c'est comme Freud disait que la blessure narcissique était que quand on se rendait compte que il prenait ça plus large, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Quand la science a découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et donc il met ça à un niveau micro, quand le moi, lui, dit l'ego, l'ego se rend compte qu'il n'est pas le centre de l'univers. Et c'est ce que Freud appelait la blessure narcissique. En fait, nous, dans notre pratique, on est amené à voir que il n'y a même pas d'ego, en fait. Il n'y a pas de je, comme on pense. C'est même pas que ce n'est pas le centre, mais c'est pas ce qu'on pense, c'est pas qu'on croit. Et c'est notre souffrance basique. Alors, on va, quand on pense que ce jeu est séparé de cet autre jeu et de tous ces jeux-là, on crée toutes les dualités imaginables. Et on souffre. Quand on voit que ce jeu n'est pas ce qu'on pense, et donc on voit par en conséquence les autres non plus, les autres non plus, bah ça change tout. Toutes les dualités qu'on croyait dures comme fer n'y sont plus. On voit les différences. On voit les différentes expressions, mais on voit qu'on est du même nature. Et encore une fois, c'est juste une phrase qui pour dire quelque chose difficile à exprimer, mais que quand on expérimente, on le sait. Et c'est ce que le Bouddha avait toujours dit. C'était ne croyez pas ce que je dis, mais expérimentez ça pour vous-même. De cette façon-là, le bouddhisme est une science exacte, car le laboratoire, c'est ici. On a chacun notre laboratoire, et quand on fait des expériences, il n'y a aucun doute. C'est une science exacte. Ça aussi, c'est notre laboratoire. Notre vie, à chacun, c'est notre laboratoire. Qui sert à tester, expérimenter. On se met sur un coussin, on teste, on voit les pensées qui viennent, les pensées qui s'en vont, les genoux qui font comme mal, ou non, la personne à côté qui fait du bruit, ou non, comment le temps qui est interminable, le temps qu'on n'a même pas vu passer. On expérimente tout ça. En anglais, c'est marrant parce qu'en français, c'est pas tout à fait pareil le mot expérimenter. Mais c'est intéressant cette différence parce que quand je dis on expérimente, j'ai en tête évidemment le version anglaise qui est to experiment, to test. Faire les expériences. Mais en français, expérimente, ça veut dire avoir l'expérience de. Est-ce que vous comprenez la différence? Et c'est intéressant hein, d'entendre ça. On expérimente sur notre coussin. Parce que c'est vrai, dans les deux sens. Selon les définitions, le sens en anglais ou en français. Mais on expérimente ça en chaque pas qu'on prend, chaque respiration, quand on va à notre lieu de travail, quand on est avec notre famille, quand on fait de la musique, quand on écrit, quand on cuisine, quand on lave les vaisselles. Les gens qui ont coupé les poireaux, c'était pas un meilleur travail que Debbie qui nettoyait les toilettes. C'est juste une autre expression de être ici dans cette vie à cet instant. Et quand on a cette expérience, quand on voit ça, ça change la façon quand on fait les choses, qu'on expérimente les choses. Ça change, je sais que quand on parlait dans la voiture, et quand je vivais dans la. Un centre zen, et que j'étais là avec mon mari, mes deux enfants et les autres gens, les autres étudiants, les teachers, les maîtres, tout ça. Et je sais que c'est Michel Autetten qui aime bien raconter cette anecdote que le fil d'attente pour les entretiens était dans ma chambre, à côté de mon lit. C'est vrai. Mais si lui, il n'avait pas raconté cette anecdote à plusieurs reprises, moi, j'avais complètement oublié cette histoire, en fait. Et à l'époque, ça ne me paraissait pas étrange. Du tout. C'est comme là, on est dans une pièce à faire la méditation qui, Parfois, c'est une salle de cinéma. Je ne sais pas ce que vous faites d'autre ici, mais on fait notre réunion de samu sur la table dans le jardin où il y a parfois les apéros. On va faire les entretiens dans la chambre de Joa. Pas bizarre. Enfin, c'est juste là où on est. Et quand on voit que tout est le voie et que chaque pas sur le chemin, c'est complet, entier, alors là, on est libre et on apprécie le sacré de tout. On doit, de chaque pas, de chaque être, de chaque instant. Et qu'on n'a pas besoin, on a besoin de rien de spécial pour ça. C'est quand on parlait dans la voiture et Debbie a dit, oh, il a fallu vraiment vouloir pratiquer. Hein. Si j'allais vivre 6 ans avec mes enfants dans cette petite maison, qui au début était même plus petite parce qu'il n'y avait même pas les chambres dans le jardin. C'est chaud. Ben oui, je voulais, vraiment, c'est ce que je voulais faire. Mais je voulais faire ça parce que je sentais que je sentais cette non-séparation. J'avais déjà eu des aperçus de cette non-séparation et je voulais le vivre pleinement. Je voulais vivre cette non-séparation entre ma vie de famille, ma vie de pratique, la salle de Dokusan et le bureau de Roshi, le fil d'attente et ma chambre. Je voulais vivre ça pleinement pour prouver la science, par la science exacte, la vérité de mon hypothèse. Qui n'était pas vraiment une hypothèse, parce que, enfin, j'avais des bonnes raisons de faire cette hypothèse, parce que j'avais expérimenté ça, mais pas à ce point-là. Et vous tous, si vous venez ici, c'est pour ça aussi, en fait. Il y a quelque chose qui vous attire. Parce que c'est le week-end de Pentecôte, vous pouvez faire autre chose. Oh non, c'est même pas la Pentecôte,
Ascension.
c'est Ascension. Pentecôte, véritablement, on va faire autre chose. Week-end de l'Ascension, les gens qui sont à la plage ou dans leur famille ou à Rome ou je sais pas, plein de choses qu'on pouvait faire. Mais vous avez choisi d'être là. Et vous avez choisi d'être là pour une raison. Encore une fois, chacun va exprimer ça autrement, à leur façon, unique. On est là pour goûter le même château Margaux, mais chacun va définir ça à sa façon et parler de ce vin à sa façon et expérimenter ça à sa façon. Et on parle toujours, souvent de cette notion de tout et rien. Quel est là,
Numéro 5.
d'ailleurs? On parle souvent de cette notion de tout et rien. Et d'ailleurs, David Loewe avait donné cette citation que j'ai sur un de mes rakusu, que Roshi m'avait donné, Denis Saragata. Je regarde à l'intérieur et je vois que je ne suis rien. C'est la sagesse. Quand je regarde à l'extérieur et je vois que je suis tout, c'est l'amour. Il dit Nisargata parce que, comme il a dit, David, c'est un hindou. Mais nous, on dirait compassion. Entre ces deux, ma vie tourne. C'est l'heure de vérité, c'est entre ces deux, ma vie tourne. Parce que c'est très bien de voir l'unité de toutes choses, la sagesse. C'est très bien, c'est magnifique. Mais on va être ébloui par ça et on ne va pas voir. Donc on va voir, ça, c'est le rien. Si on se reste fixé là-dessus et on est ébloui par ça, blinded par ça, aveuglé par ça, on ne va pas voir le tout. On ne va pas voir que je suis tout, en fait. Et donc, on va pas voir les autres. C'est notre espèce est un peu confrontée à ça en ce moment. Hein. En ce moment, non, on se date et puis. Et là, ici, on est là pour expérimenter ça. S'asseoir sur son coussin tout seul en silence, c'est expérimenter le rien. Quand on se lève et on marche, ou on chante ensemble, on fait le ryoki ensemble, on fait le samu, ça c'est le tout. Et précisément dans une retraite, on essaie de amener le rien, le silence, dans le tout pour nous aider à intégrer les deux, pour bien voir les deux, voir le tout. Parce que si on n'est pas dans le silence, on perd un peu le contact avec le rien. Et on se perd dans le tout. Tout ça juste pour dire que c'est formidable d'être ici, de pratiquer ça ensemble, de revenir vraiment à la base de ce qui est notre pratique, de ne pas être accaparé par tout un tas de formes et idées et mots. Et juste être là, ensemble, sur ce même chemin. Donc, on a du temps si vous voulez partager, dire quelque chose, poser des questions. Dommage que Guillaume doit partir pour faire la cuisine.
Quand tu mentionnais Dana, je repensais aussi, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une fois, je ne sais pas pour quelle raison obscure, on avait fait les entretiens dans la salle de bain à Paris.
Chez vous,
Oui,
oui.
je sais plus, c'était en travaux, je crois, ou je sais plus quoi. Et
Je crois que c'était avant que tu avais ton bureau. Et les chambres d'Eliott étaient là. Et peut-être autre chambre aussi, je ne sais pas,
c'est
mais
puis il y avait des
c'était.
travaux, ou je sais pas.
Oui, je
Enfin,
sais,
et du coup, on s'était retrouvés dans la salle de bain pour faire des entretiens. Et je trouve que c'est une telle libération de pouvoir ne pas être figé sur de se dire pour faire des entretiens il faut telle sorte de pièces, etc. Il faut et dans le même temps, et je repensais aussi, ça me fait aussi penser à dans le même genre de choses, ce que racontait Bernie Glassman, une fois tu étais allé, quand à un moment il s'asseyait dans une école désaffectée, dégueulasse, avec des choses partout, et moi j'avais été très très frappé quand j'avais lu le livre, où il racontait qu'il avait fait un hôtel avec boîte de con,
J'étais là, on peut
ouais,
ça.
ou une canette de bière qui traînait, ou je sais pas quoi. Et donc, il y a à la fois cet aspect que je trouve vraiment réjouissant, libérateur, de se dire ça peut être dans n'importe quel espace, et en même temps de voir que on crée un espace en faisant un petit quelque chose qui fait que tout d'un coup ça devient sacré d'une certaine manière, ou ça devient, ça prend une autre fonction, ou cet espace ordinaire devient extraordinaire ou sacré, ou en même temps tout à fait, tout en demeurant ordinaire. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'avais laissé le Bouddha à Paris, pensant que le Bouddha était là. J'ai eu ma premier truc, c'est zut, j'ai pas ça. Et puis ma deuxième pensée, c'était de me dire, mais c'est pas grave, on prendra autre chose. Et puis après, je me suis rendu compte après qu'il y avait un Bouddha dehors. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on pourra prendre le Bouddha dehors. Et puis s'il n'y a pas de Bouddha dehors, on prendra autre chose. C'est pas grave, en fait. Ce qu'il y a sur un autel et ce qui pourrait représenter le Bouddha, ça peut vraiment être toutes sortes de choses, en fait. C'est pas grave. Mais donc, ce truc peut être partout, et partout peut devenir un lieu sacré, mais je ne sais pas comment dire.
Oui, absolument. Et dans ce sens-là, c'est l'intention qu'on met qui est importante. Une canette de bière sur le tronc d'arbre, l'intention, c'est que c'est ça. Vrai. Hein. On aurait pu, bon, j'ai amené ça, mais on aurait pu. J'ai pas
Autre
compris,
chose.
oui.
Oui, après je me suis dit, il y a le Bouddha qui est plein de mousse,
Oui.
qui est à l'extérieur, qu'on aurait pu mettre là, et puis après je me suis dit, ça peut être une photo, ça peut être
Ça aurait pu
ou
être
rien du tout.
l'un de nous.
Hein?
L'un de nous.
L'un de nous.
Vous souvenez de. Alors, c'était une femme, je ne sais pas quelle. Moi, je suis venue ici deux fois, donc c'était une de ces deux fois-là, qui disait. Elle avait été dans un, je ne sais pas quel sangha où on a brimé un petit peu parce qu'elle ne se tenait pas bien. Et quand elle avait vu. Alors, c'était. Est-ce que c'était le vase de fleurs? Je pense que c'était une bouteille de 51. Et elle dit, bon, je pense que là, ça va attention. Moi, je sais que c'est comme ça que je nous vends à des gens qui nous parlent de pratique. Le côté, c'est détendu et sérieux. C'est, on va, parce que les gens sont, mais je ne peux pas être à l'heure. Honnêtement, moi qui stresse autour de l'heure, jamais, chez Rochiche, ici, jamais, il n'y a même pas un sourcil qui s'est élevé. C'est le respect de, bon, maintenant, on n'a pas du temps à pas marcher comme ça. Non, ça, pour moi, ça, c'est la pub tourne autour de ça. On peut venir en retard, personne vous pourrit,
C'est la seule raison pour laquelle je suis ici.
Tu vois, c'est important.
Parce que c'est important pour les salaires.
Hein.
Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que une de mes amies, Marzena, que certaines, toi tu le connais, qui était une étudiante de Maizumi Roshi, disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi, je ne sais pas si c'est juste Dana ou d'autres, Gempo aussi faisait ça, faisait toujours que le maître arrive en dernier, attendait que tout le monde soit assis et arrivait. Parce qu'elle dit, Maizumi Roshi était toujours le premier dans un dos. Et bon, quand c'était l'heure de sonner, pour commencer la période, le Jikido sonnait, mais Maizumi Roshi était toujours le premier. C'est très intéressant ces notions de où il y a j'ai assisté une fois avec Bernie à une retraite où si tu arrivais une minute en retard, bah, la porte était fermée et tu ne pouvais pas rentrer. Et j'étais avec Bernie et dans une groupe qui arrivait en retard, c'était pas ça sanglait à lui, hein. Et même Bernie ne pouvait pas entrer parce que ça avait fermé la porte.
C'est cher.
Donc, c'est vrai. Qu'est-ce qui est important en fait? C'est ça là.
Je voulais juste, en fait, tout à l'heure, quand tu as parlé, c'était. Je ne sais plus pourquoi, mais ça m'est paru évident. Ah oui, ok, parce que tu as parlé beaucoup de revenir, et moi je reviens pas, je viens. Et en fait, je pense que. En fait, je suis très touchée par le chemin que j'ai fait hier, en fait. Je me suis pas rendu compte, je crois. En fait, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure quand tu as parlé, je m'en suis rendu compte de l'importance de ce chemin. En fait, c'était très fort que ce soit nouveau. En fait, j'étais un peu folle sur mon vélo hier. J'étais tellement contente, en fait. C'était bien que personne ne me voie dans la forêt, toute seule. Parce que j'étais un peu hystérique, un peu. J'avais envie de chanter. Je chantais fort. Je roulais fort. Mais parce que je crois que j'étais super contente. Parce que justement, c'était nouveau, en fait. C'était pas un chemin que j'avais déjà fait. Et en fait, je savais pas du tout où j'allais arriver. Enfin, je savais pas combien de temps ça allait me prendre. Je savais pas combien de temps. Et c'était vraiment chouette, ça, de pas savoir. Et ça a un peu mal commencé parce qu'il y avait un arbre au milieu de la route. En fait, j'ai pris un chemin de traverse et il y avait un énorme arbre au milieu de la route. Mais qui dépassait des deux côtés, je ne pouvais pas contourner. Et comme je m'étais beaucoup chargée, parce que j'ai pris ma slackline, comme d'hab, quoi. Et encore, j'avais collé ma guitare dans une autre voiture, collé la tente de mon fils dans une autre voiture, mais j'étais trop lourde, je ne pouvais pas sauter le tronc toute seule. Et je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, il y a des... Bon, ok, il y a quand même des obstacles. Bon, j'ai quand même contourné, mais je me suis mis, enfin, ça a pris une demi-heure, je me suis mis dans les... Voilà, et puis après, super, j'ai retrouvé le bitume, je me suis dit, ah, bon, les obstacles, c'est terminé, bitume. Mais après, j'ai suivi mon GPS, après, j'arrive dans le sable. Et je pouvais pas pédaler dans le sable, j'ai poussé le vélo longtemps quand même. Hein. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, après le sable, il y a forcément encore du bitume. Bon, et puis j'ai retrouvé du bitume, mais je suis retombée dans le sable. Et après, enfin, c'était quand même un drôle de chemin, en fait. Voilà. Mais quand même, tout ce chemin, bon, j'ai un peu perdu espoir à la toute fin. J'ai appelé Lisa, qui ne m'a pas répondu, j'ai appelé Joël. Et j'ai dit, en fait, je ne la trouve pas, cette maison. Je l'avais trouvée, mais je me suis dit, ça ne peut pas être ça, il n'y a personne, ça ne peut pas être ça. Donc, je suis repartie. Et après, j'étais un peu j'ai dit, mince, mais en fait, je ne vais pas la trouver. J'avais perdu espoir sur la toute fin, mais quand même, c'était un drôle de chemin. Et aussi, c'était un chemin... En fait, j'avais projeté une idée de ce chemin. Je m'étais faite une idée de ce que serait ce chemin. En fait, il ressemblait en aucun point à ce que j'avais projeté. Je pensais que j'allais arriver comme ça. J'allais tout à l'heure maîtriser le temps. J'allais vraiment mettre une heure. Bon, je ne sais pas s'il m'avait dit que je mettrais une heure. Donc, j'allais mettre une heure sur un chemin... Voilà, en fait, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai mis bien plus qu'une heure. Mais quand même, c'était chouette ce chemin. En fait, ouais. Mais ce qui était chouette, c'était que c'était nouveau, vraiment. C'était, en fait, ce qui était chouette, c'était cette... ouais, c'était comme un cadeau que ce soit nouveau. C'était pas de chez moi à Dana. C'était venir ici, dans cette maison. Et du coup, ça, c'était vraiment chouette. Voilà. C'est tout à l'heure, quand t'as parlé, j'ai pas du tout pensé à ça jusque-là, en fait. Ouais. Ouais, et j'aime bien cette maison. Je l'ai trouvée super quand je suis arrivée. Je me suis dit, waouh, quelle chance, parce que c'est le lieu du Jukai. Et j'aurais pu peut-être ne pas aimer cette maison, je sais pas. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, quelle chance. Voilà, c'est tout.
Bah, et c'est ça, hein, c'est toute cette pratique, c'est comme j'ai dit, le chemin, ça consiste à voir le monde nouveau comme ça, comme si c'est la naissance du monde, c'est ça, on parle de beginner's mind, l'esprit du débutant, hein, mais c'est ça exactement, c'est nouveau. Et bon, c'était parce que c'était véritablement la première fois que tu prends ce chemin. Hein. Mais c'est possible d'avoir de vivre la vie comme ça. Et que c'est chouette, comme tu dis.
Et puis même sur le chemin, c'était très bizarre. Alors, c'est pas pour raconter cette anecdote, mais je sais pas du tout pourquoi ce monsieur dit ça, mais j'ai croisé. Attends, j'ai fait le chemin essentiellement toute seule et j'ai croisé donc, un monsieur là, qui a dit « Oh, une fée sur un vélo dans une forêt, c'est très étrange. » Je sais pas pourquoi il a dit ça. Est-ce que c'est parce que j'avais les cheveux lâchés, blancs? Est-ce que c'est les cheveux blancs? Est-ce que c'est... Pourquoi une fée? Parce que je suis une femme? Je sais pas. C'était très un peu bizarre parce que je pense que j'étais en âge. Enfin, je veux dire, j'étais en train de pousser mon vélo. Enfin, c'était galère, quoi. Et lui, donc je vois pas pourquoi j'avais l'air d'une fée. Mais il a dit ça et je me suis dit, c'est un peu étrange ces paroles comme ça. Parce que je sais pas, peut-être que lui, il a vu plus loin. Je sais pas ce qu'il a vu, mais en tout cas, même ça, c'était un petit peu étrange. Pourquoi il a dit ça?
Peut-être qu'il avait senti, à son insu même, ce que tu décris, tu vois.
L'enchantement.
Quoi?
L'enchantement.
Oui.
Enfin, ils m'ont dépassé, hein. Eux, ils m'ont dépassé et ils m'ont laissé pousser mon vélo. Mais bon, c'était étrange, ces paroles étaient un peu... Tiens, pourquoi ils...
Il y a quand même un truc que je comprends, que je résiste, que je comprends pas, ou je veux pas admettre, ou je comprends pas plutôt. C'est cette idée que toute chose, toute pensée, mais surtout toute expérience, est pareille. Ce n'est pas pareil du tout.
Tu n'as dit pas pareil. Ouais. Pas dit pareil.
Oui, mais alors je vais essayer d'être plus précis. Que tout se vaut. Est-ce que tu as dit ça?
Je crois que j'ai dit je sais pas si je dis égal, je crois.
Parce qu'en tout cas, si on, enfin, d'abord, quand on dit la vie est courte, l'opportunité s'envole, enfin, il faut faire des choix et ces choix sont ultra importants. Et c'est pas la même chose que de rester à un endroit que d'aller à un autre. Donc, j'ai un peu de... Je pense que c'est une sorte de dualité où je comprends, j'entends mal ou je comprends mal, mais parfois, quand on parle, j'ai l'impression qu'on dit tout est pareil. Non.
Non, on ne dit pas que tout est pareil. Non, ça, c'est sûr. Et parce que ce n'est pas... Il y a des roses et il y a des cerises. Enfin, ah. Où il y a des, c'est pour ça que j'ai dit des orties
et des rats. Roses. Et des rats.
Voilà. Donc, non, tout n'est pas pareil. Par contre, si on voit que ce qui nous pose quelques problèmes, même pour faire des choix, pour prendre des décisions, ce qui nous pose problème, c'est qu'on est attaché à ce sera meilleur que ça. C'est ces valeurs qu'on met sur les choses qui nous posent problème. Mais si on peut voir que c'est pas meilleur ou pire, c'est juste différente. Et on n'est pas attaché à nos jugements et nos opinions, nos idées. Ça rend beaucoup plus facile les choix et les décisions. On peut faire des choix parce que les circonstances demandent ceci ou cela. Bon, je sais pas, tu pouvais pas soulever le vélo, donc tu as contourné. Enfin, tu aurais pu attendre que quelqu'un arrive et t'aies soulevé le vélo, j'imagine, je sais pas. Quelqu'un n'est pas venu ici ce week-end parce que sa famille avait prévu quelque chose en province et elle a décidé que fait le choix de faire ça plutôt que de venir ici, bien qu'elle était triste de ne pas venir ici. C'est pas que c'était meilleur ou pire de venir ici ou d'aller avec la famille, mais dans le contexte de sa famille, avec son mari, ses enfants et tout ça, elle a décidé que c'était ça qu'elle choisissait de faire. Mais si on est très attaché à nos jugements et nos évaluations, on va avoir du mal à choisir ce genre de choses. Et on va regretter, elle aurait soit venue ici contre toute attente, et ça aurait créé des problèmes dans sa famille, avec son mari, etc. Soit elle aurait été avec lui tout en avec beaucoup de ressentiment parce qu'il l'a fait faire. Elle voulait plutôt être là. J'exagère peut-être, mais je peux comprendre ce genre de choses qu'on fait. Tandis que si on peut apprécier chaque chose pour ce que c'est beaucoup plus facile à...
Mais est-ce qu'il n'y a pas des erreurs quand même?
Ça dépend de comment tu définis erreur. Parce que, est-ce qu'on peut dire que ouvrir le centre Wildflower et le fermer après 3 ans, est-ce que tout ça c'était une erreur?
Non.
Mais si vous aviez perdu 20 000 euros, à partir de quel moment, quand les résultats, moi je pensais un peu la même chose, quand les résultats de l'expérience sont négatifs.
Bah, ça dépend aussi. Moi j'ai investi beaucoup d'argent dans cette centre, hein. Je pense que je n'ai pas récupéré. Mais l'expérience d'avoir fait ça, et même le fait de mettre de l'argent dedans, ce n'était pas une fois que c'était clair que c'est ça qu'on voulait faire, et pour certaines gens dans la sangha, ce n'était pas clair. Il y a des gens qui sont partis, parce qu'ils ne voulaient pas avoir un centre. Ils ne sont jamais revenus. Mais une fois que c'était ça qu'on décidait de faire, on s'investit avec notre énergie, notre temps, notre argent, etc. Et une fois que c'était clair que ce n'était plus ça, mais pour savoir que c'est clair, il fallait vraiment à l'écoute de la situation, de moi-même, de ce que c'était le sangha. Roshi m'avait aidé avec ça à un moment. Parce qu'elle m'avait dit, parce que je disais, mais est-ce qu'il faut vraiment l'arrêter ou non, ça ne correspond pas vraiment, là, là. Et Roshi a dit, bah, il faut regarder la situation, est-ce que ça correspond à un besoin de façon là à Paris? Absolument pas. Alors là, vraiment pas. Et donc, ça m'avait ouvert un peu les yeux, je dis, bah oui, elle a raison. Les circonstances, si j'ouvre bien au-delà de mon idée de je veux avoir un centre, on veut avoir un truc, tout le monde nous voit, on a une plaquette sur rue, ou même mettre un espace disponible pour d'autres groupes pour pratiquer, toutes ces idées-là, mais fondamentalement, est-ce que ça correspondait à, est-ce que c'était juste pour la situation? Mais il a fallu que je puisse être clair, et ça c'est la pratique qui me permet de ça, de voir la situation et ne pas être attaché à une idée. Et en fait, c'était génial que ça s'est arrêté là, parce que 6 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Covid. Alors là, on était vraiment
dans le même. Oui, ça.
Mais peut-être ça aurait été autre chose, s'il y avait le Covid, je ne sais pas. Enfin, si on avait le centre, s'il y avait le Covid, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'était une erreur de le faire? Tu avais dit tout de suite, dis non. Parfois, je me disais que c'était une erreur. Je me suis égarée pendant 3 ans. Mais en fait, non. Non. C'était une autre expérience.
Et ce genre de calcul suppose qu'il y avait... Pardon.
Ouais. Ce genre de quoi? Vas-y.
Ben, ça suppose qu'il y avait... Ça, c'était le plan A. Qu'il y avait un plan B qu'il fallait choisir, qui aurait été mieux. Ben, ça, c'est factice, en fait.
Ben, c'est, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, si on dit que j'ai choisi comme plan qui a marché ou qui n'a pas marché, j'aurais dû choisir B, mais ça suppose qu'il y a une autre vie qu'on n'a pas empruntée. C'est du délire, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, on peut dire que oui, il y a toujours tout, et souvent c'est ça notre problème, c'est qu'on dit, si je choisis ça, je vais passer à côté de tout ça. Bien sûr. Si je prends ce gâteau, ben, je ne vais pas goûter les autres. Roshi racontait que quand elle était petite, son frère, quand les gâteaux arrivaient, tout le monde avait le choix d'un gâteau. Et son frère disait, prends ce que tu veux, Catherine, parce que... qu'est-ce que c'était? Parce que je sais que tu vas toujours prendre le gâteau que je veux. Et que tu vas avoir le gâteau que tu veux. Donc, prends la religieuse, parce que moi, je ne sais pas. Mais c'est on dit que ah non, si je choisis de faire ça, bah, je passe à côté de tout ça, et là on est paralysé. Mais en fait, si on voit qu'il n'y a pas, c'est pas comme s'il y avait un autre chemin et je choisis ça. Ça, c'était mon chemin, et c'est juste que c'est manifester ça comme ça à cet instant.
Mais alors, on fait des choix ou on ne fait pas des choix?
On fait beaucoup de choix, oui, oui.
Ouais, par rapport à ce que tu dis, Catherine, sur la question de tout est égal, je trouve il y a vraiment dans la phase de la pratique de se donner la possibilité de laisser surgir tout ce qui surgit avec équanimité, c'est-à-dire pas et que s'il y a parce que le problème souvent c'est que on écarte des choses en se disant non, I don't want to go that way. Et donc, d'accueillir tout ce qui surgit avec égalité de ce point de vue-là. Pas sur les objets. D'accueillir, ce sont des objets de pensée, des sensations, des opinions, des sentiments. Tout ça qui surgit. Et après, dans une situation. Et de ce point de vue-là, on fait rien. We stay still and we just watch it. Whatever arises. Et après, moi, ce que je trouve très utile dans la vie de tous les jours, quand on est dans l'action, mais dans l'action, c'est aussi cuisiner. C'est un ensemble de choix. Et je trouve que dans le sentier octuple, quand on souvent on traduit par right speech, right action, right, etc., c'est sama en pali, et le terme qui est parfois traduit par wholesome. So what is wholesome? Et c'est et wholesome c'est aussi entier, global. Quand si on prend tout l'ensemble, qu'est-ce qui est sain? What's wholesome for me or for the situation? If we take the whole bunch of things, what should I do that is wholesome? That's my thread, the wholesomeness of the action. And then, yeah, and then you pick and you choose and you do it and you just, and sometimes it's, you might realize it wasn't such a great idea, but yeah, that's wholesome. And you never know, also. And you never know.
Et ça fait partie de, on vit ça comme difficulté de ne pas savoir. En même temps, ça donne, c'est chouette, quand on ne sait pas.
Ça donne?
C'est chouette, qu'on découvre. Et c'est très juste ce qu'il dit, Joa, c'est qu'on reste juste avec tout ce qui vient. Tout ce qui est bien, les doutes. Et à un moment, oui, on fait des choix.
Je trouve ce que dit, aussi Bernie m'avait beaucoup inspiré quand il parlait de du fait que plus on accueille, plus on est capable de voir les choses comme elles sont, plus on voit les différents éléments, plus nécessairement notre réponse sera appropriée, puisque on n'écarte rien des différents aspects de la réalité. Donc, plus on a une vision large, plus notre réponse nécessairement sera plus appropriée. On a plus d'éléments pour choisir. L'image qu'il donnait, que moi j'aime beaucoup, c'est ce petit personnage Utaï, qui a une hotte avec des outils. Et quand il est confronté à une situation, il sort un outil et il répond à la situation avec un outil. Et dans notre hôte, plus on a d'outils, mieux c'est. Si on a juste un outil, on a un marteau et on se dit dans toute situation, c'est le marteau, bah parfois c'est pas très approprié. C'est, si on a un tournevis et on a un marteau et on sait l'utiliser parce que voilà, et en même temps, face à une situation, on regarde et on se dit, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut? Faut un tournevis, un marteau, une scie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Mais pour ça, il faut pouvoir regarder la situation. Si on est braqué en se disant, je connais le problème, ou je connais la solution, parce que la solution, c'est forcément un marteau, ça marche pas, en fait. C'est pas très approprié. C'est pas très...
Une autre situation, là, maintenant, c'est qu'il est temps de manger. Merci. Merci.
Préparez-vous pour le hockey.